Je vais vous parler de mort physique et de mort sociale en prison. Peu après la fin de mes 4 années d'enquête dans une maison d'arrêt, un jeune homme d'origine africaine qui présentait des troubles psychiques y fut incarcéré après avoir été condamné à une courte peine d'emprisonnement pour un délit mineur. Quelques semaines plus tard, il se disputa avec un autre détenu et malgré ses protestations véhémentes, fut immédiatement placé en quartier disciplinaire en attendant de passer en jugement. Révolté contre cette décision qu'il considérait injuste et angoissé par le caractère sinistre de l'endroit, le soir même, il mit le feu à son matelas dans un geste de détresse, mais très vite, ses vêtements s'enflammèrent. Alerté par ses hurlements, des voisins de cellule appelèrent au secours. Le surveillant de garde accourut, mais n'ayant que la clé de la porte blindée, il ne put ouvrir la grille de la cellule dont, la nuit, seul l'officier de garde disposait de la clé. Lorsque les deux membres du personnel revinrent précipitamment, plusieurs minutes plus tard, pénétrèrent dans la cellule et parvinrent à éteindre l'incendie, l'homme gisait inconscient, au milieu de la fumée, dans une odeur âcre de chair calcinée. Transféré à l'hôpital avec des brûlures au deuxième et troisième degré sur 80% de son corps, il mourut quelques semaines plus tard dans un service de réanimation. Dans l'intervalle, un magistrat saisi de son cas avait ordonné sa libération pour que, symboliquement, il meure libre. Ou peut-être plus cyniquement, pour que son décès ne soit pas comptabilisé parmi les suicides en détention. Quoi qu'il en soit, c'est la même vulnérabilité psychique qui avait favorisé le délit mineur l'ayant conduit en prison, qui avait contribué à son altercation avec un autre détenu et qui, une fois placé en cellule disciplinaire, avait abouti à sa réaction désespérée. Il était l'une des 130 personnes qui, chaque année, se donnent la mort dans les établissements pénitentiaires français, dans le silence des médias et l'indifférence du public. Dit autrement, c'est tous les 3 jours une personne détenue qui met fin à ses jours. La France est le pays d'Europe où l'on se suicide le plus en prison. Le taux de ces suicides y est plus de 2 fois plus que celui constaté en Angleterre, en Allemagne, en Italie et au Danemark, 4 fois celui de l'Espagne, de l'Irlande, de la République tchèque, 7 fois celui de la Pologne. Seule la Norvège présente des taux similaires avec toutefois une population carcérale bien moindre. Et si l'on élargit l'aire géographique, c'est environ 4 fois le taux de l'Italie, de l'Australie et même 7 fois celui du Canada ou des États-Unis. On souligne parfois que la sursuicidité, comme les démographes aiment à nommer ce phénomène d'un néologisme peu élégant mais explicite, tient au fait que les Françaises et les Français ont une forte tendance suicidaire même dans la population générale. Si l'on garde les mêmes exemples de pays, il est vrai que la proportion de celles et ceux qui, en France, se donnent la mort parmi les adultes âgés de 30 à 49 ans, pour garder une comparabilité, est plus du double de celle observée en Italie et en Espagne, 1,5 fois plus élevée que celle constatée en Angleterre, en Allemagne, au Danemark et en Norvège, mais on se suicide autant en République tchèque et même un peu plus en Pologne. Il n'en reste pas moins qu'en France, on met fin à ses jours 9 fois plus en prison qu'à l'extérieur, alors que cet excès est d'environ 6 fois en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, 3 fois en Irlande et en République tchèque. Seuls 3 pays ont un coefficient multiplicateur plus élevé que la France, l'Italie, la Norvège et le Portugal. Pour résumer, la France ne se caractérise pas seulement par des niveaux élevés de suicide dans sa population générale, elle présente une sursuicidité carcérale supérieure à celle de la quasi-totalité des pays européens et même plus largement occidentaux. Il n'en a pas toujours été ainsi. Le taux de personnes détenues qui se donnent la mort dans les établissements pénitentiaires français est aujourd'hui de 18 pour 10 000 prisonniers. Il n'était que de 4 pour 10 000 en 1960. et même encore plus bas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte assurément particulier. En un peu plus d'un siècle, il y a donc eu plus qu'un quadruplement de la proportion de suicides rapportés à la population carcérale. Comment expliquer cette exception française dans le monde occidental et cette spectaculaire aggravation au fil des décennies? Il serait tentant de le faire en attribuant l'inflation suicidaire à la situation des prisons qu'un rapport sénatorial décrivait, comme on le rappelait tout à l'heure, en 2000 comme une humiliation pour la République et qu'un président qualifiait en 2009 de honte pour la République, les médias s'étant alors relayés pour commenter ces formules choquantes en montrant des images d'établissements dont les cours de promenade étaient noyés dans la boue et les cellules infestées de rongeurs. Cette association entre tendance suicidaire et conditions matérielles semble aller de soi. Et pourtant, elle est démentie par deux ordres de fait. D'abord, la modernisation du parc pénitentiaire avec la construction de nouvelles prisons ne s'est pas accompagnée d'une diminution des suicides. Ainsi, dans la toute nouvelle maison d'arrêt de Nantes, ouverte en 2012 pour remplacer un bâtiment datant de 1865, 5 détenus se sont donné la mort au cours des 15 premiers mois, soit un taux 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Plusieurs épidémies similaires de suicides se sont produites dans des établissements neufs, présentant certes de meilleures conditions matérielles, avec des douches dans chaque cellule par exemple, mais imposant aussi des dispositifs de surveillance plus contraignants et un éloignement plus important des familles. Ensuite, et de manière plus anecdotique, un homme détenu dans la maison d'arrêt relativement récente où je conduisais mon enquête me disait qu'il avait précédemment été incarcéré dans une vieille prison où l'on trouvait, disait-il, des souris, des cafards, des trous dans les murs, mais où il y avait, ajoutait-il, une meilleure ambiance et des activités variées. Il ne l'indiquait pas, mais le fait que cette prison se trouvait en centre-ville rendait les parloirs plus faciles quand l'établissement dans lequel il était désormais, situé dans une zone périphérique desservie par quelques bus quotidiens, obligeait les compagnes et les parents à de longs périples pour lui rendre visite. De plus, les préoccupations sécuritaires avaient progressivement conduit au doublement des barreaux par un épais caillebotis qui laissait à peine passer la lumière du jour et aggravait le sentiment d'oppression. En somme, la dégradation des lieux d'enfermement peut certes s'avérer éprouvante, elle ne suffit pas cependant à conduire au suicide. L'histoire qui a servi de prélude tragique à cette réflexion suggère deux interprétations qui, bien sûr, n'en excluent pas d'autres, comme la culpabilité dans certaines affaires d'homicide ou la honte dans certains cas d'abus sexuels. La première explication concerne la chaîne pénale, c'est-à-dire la succession des éléments qui, du débat public, souvent autour d'un fait divers, à la proposition de loi du gouvernement, de la législation votée par le Parlement à son application par les forces de l'ordre, du passage en jugement à la peine d'emprisonnement prononcée et exécutée, c'est cette chaîne pénale qui conduit en prison. Le jeune homme d'origine africaine faisait partie des près de 100 000 personnes condamnées chaque année pour des peines d'emprisonnement ferme de moins de 6 mois, autrement dit pour ce qu'on appelle des délits mineurs, sanctions en augmentation régulière en France quand elles ont presque entièrement disparu dans certains pays voisins comme l'Allemagne. La seconde explication relève de la condition carcérale proprement dite, de ce qui se passe en prison, des relations qu'on établit avec les autres détenus, de la façon dont on est traité par le personnel pénitentiaire, des frustrations et des humiliations qu'on subit au quotidien, des punitions décidées par la commission disciplinaire qui viennent s'ajouter à la peine prononcée par les magistrats. Le jeune homme d'origine africaine avait eu une altercation avec un autre prisonnier et considérant qu'il avait été provoqué, ne supportait pas la violence de sa sanction et de la cellule disciplinaire. Deux explications structurelles, donc, la chaîne pénale et la condition carcérale. De leurs rôles mortifères respectifs, les preuves empiriques ne manquent pas. Pour ce qui est de la chaîne pénale, trois éléments suggèrent la manière dont elle affecte les personnes qui sont incarcérées. Premièrement, on observe une croissance parallèle depuis 6 décennies du nombre de détenus et du taux de suicide. Les études montrent toutefois que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la suroccupation des cellules, conséquence de la surpopulation des prisons, qui rend compte de la progression des suicides. c'est l'augmentation des peines d'emprisonnement ferme qui correspond à la fois à la correctionnalisation de violations de la loi qui relevaient antérieurement de simples contraventions, typiquement le cas des conduites après perte des points de permis, également à la sévérité accrue à l'égard de faits pour lesquels les peines d'emprisonnement ferme étaient rarement prononcées, comme l'usage simple de cannabis, et enfin à l'exécution tardive de peines alors que les personnes ont reconstruit leur vie depuis leur délit, ont une famille et un emploi. Ces courtes peines, qui correspondent à des délits mineurs et représentent plus des deux tiers des emprisonnements, sont souvent vécues de manière d'autant plus dramatique qu'elles sont inattendues pour les prévenus et provoquent une profonde déstabilisation de leur existence familiale et professionnelle. Deuxièmement, si l'on considère l'ensemble des personnes écrouées, celles qui sont hébergées dans un établissement pénitentiaire, soit 85% de l'ensemble, se suicident deux fois plus que celles qui se trouvent à l'extérieur, généralement sous bracelet électronique. C'est dire que parmi les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme, qui sont effectivement exécutées, puisqu'il est possible aussi d'avoir un aménagement ab initio, qui bénéficie celui-ci à généralement à des personnalités politiques, mais très rarement aux personnes appartenant à des milieux populaires, le choix, lorsqu'ils sont écroués donc, d'une alternative à la prison, réduit considérablement le risque suicidaire. Troisièmement, enfin, les prévenus, qui sont donc en attente de leur procès et innocents jusqu'à preuve éventuelle de leur culpabilité, et dont la proportion s'élève à 44% des détenus en maison d'arrêt, se suicident près de trois fois plus que les condamnés. Tout se passe donc comme si l'angoisse de la décision de justice, vécue dans l'environnement carcéral, était un facteur supplémentaire de risque suicidaire. Au regard de ces trois éléments empiriques, on voit bien comment la chaîne pénale, en amont de la prison, s'avère décisive dans la propension à mettre fin à ses jours lorsqu'on y entre. La facilité avec laquelle les procureurs requièrent et les juges du siège décident des peines d'emprisonnement ferme ou le maintien en détention provisoire en attente d'un procès, est en partie liée à leur ignorance de ce qu'est la prison, comme le reconnaissent leurs syndicats. Quant aux directeurs d'établissements pénitentiaires, ils assistent impuissants à cette inflation carcérale dont ils savent combien elle pèse sur les tensions dans leur prison et sur la fatigue de leur personnel. Ils commentent désabusés ces peines d'emprisonnement pour conduite après perte des points du permis, pour usage et détention de cannabis, pour non-versement par un mari divorcé de la pension alimentaire à son ancienne épouse ou pour franchissement par une personne sous bracelet électronique du périmètre qui lui est imposé. L'inflation suicidaire est donc en bonne part la conséquence de l'inflation punitive. Mais cette dernière n'est pas également distribuée dans la population. À la sévérité s'ajoute l'inégalité et à l'intolérance l'injustice. L'aggravation des sanctions par le double mécanisme de nouveaux délits et de l'alourdissement des peines concerne avant tout les milieux populaires, épargnant les classes aisées. Et pour s'en tenir à un seul exemple, dans les années 2000, le nombre de condamnations pour usage et détention simple de stupéfiants, en l'occurrence de cannabis, a triplé, tandis que le nombre de condamnations pour délinquance économique et financière a diminué d'un cinquième. Or, les études épidémiologiques montrent que la consommation de cannabis n'a pas augmenté dans cette période et les enregistrements de la police indiquent au contraire une progression des délits économiques et financiers. De surcroît, l'observation des pratiques des forces de l'ordre montre que les contrôles et les fouilles ne se produisent pas de manière aléatoire, mais presque uniquement parmi les jeunes de quartiers en difficulté appartenant pour la plupart à des minorités ethno-raciales, se détournant des étudiants des universités et des grandes écoles, et ce, bien que, là encore, les enquêtes épidémiologiques révèlent des usages à peu près similaires du cannabis dans les différentes catégories sociales. On sanctionne donc plus les consommateurs et détenteurs de cannabis que les auteurs d'abus de biens sociaux ou de trafic d'influence, mais parmi les premiers, on vise essentiellement les jeunes de milieux populaires et d'origine immigrée. Le choix a donc été fait de pénaliser une partie de la population et d'en protéger une autre, indépendamment de la gravité et de la fréquence de leurs délits respectifs. C'est du reste cette sélection qui permet que les politiques sécuritaires soient acceptées par la majorité de la population qui n'en subit pas les conséquences. Mais in fine, c'est bien en prison que les 130 suicides dont il est question ont lieu, et la condition carcérale, en tant que telle, intervient de manière significative dans le geste suicidaire. Là encore, des éléments empiriques en apportent la démonstration. Les prisonniers se donnent en effet la mort à une fréquence élevée au début de la détention, 7% lors du passage pendant les quelques jours dans le quartier arrivant, pourtant destiné à faciliter la transition entre le monde extérieur et l'univers pénitentiaire, et 25% au cours des deux premiers mois. On parle souvent de choc de l'incarcération. Nombre de magistrats avec lesquels je me suis entretenu le considèrent comme un élément bénéfique, la personne étant censée, selon eux, prendre alors conscience de son délit. C'est ce que justifie leur décision de condamner à la prison ferme, même pour des faits de faible gravité, souvent en récidive. À l'inverse, loin d'y voir une sanction salutaire, les surveillants et directeurs, eux, le redoutent, sachant ce qu'il signifie en termes de risque suicidaire. Il est vrai que ce sont eux qui décrochent les pendus ou évacuent les brûlés et qui affrontent ensuite l'inquisition du parquet et les plaintes de la famille. Si le choc de l'incarcération est donc pourvoyeur de suicide, c'est que la prison en elle-même est une expérience éprouvante. Pour croire que la prison n'est qu'une privation de liberté, ou pour dire, comme le font souvent les personnels pénitentiaires, qu'en prison, il ne manque aux prisonniers que la liberté, il faut en effet ignorer ce qu'est la condition carcérale. Ignorer s'entend ici au double sens de ne pas savoir, c'est le cas de la majorité du public, ou de ne pas vouloir savoir, c'est le cas des agents travaillant en prison. En réalité, l'expérience carcérale est une somme de privations. La privation de liberté existe à l'intérieur même des prisons, puisque dans les maisons d'arrêt et une partie des établissements pour peine, les personnes détenues sont enfermées dans leurs cellules au moins 22 heures sur 24, n'ayant que 2 heures de promenade, notamment pour celles dont les courtes peines ne permettent pas d'accéder aux activités scolaires ou sportives, de travailler dans les services communs ou les ateliers, moins de 1 sur 5, de bénéficier de formations, environ 1 sur 10. S'ajoute à cet enfermement la suroccupation des cellules dans les maisons d'arrêt, puisque dans des espaces prévus pour une personne, 2 ou 3 sont confinés, ce qui signifie 2 lits superposés, souvent un 3e matelas sur le sol, ne laissant même plus de place pour circuler dans la cellule ou ranger ses affaires. Dans ces conditions, la privation d'intimité est totale, se manifestant jusque dans la possibilité d'aller aux toilettes et de se laver. La privation de sexualité ne laisse à beaucoup d'autres choix que la masturbation ou des relations homosexuelles qui ne sont pas toujours désirées et peuvent être violentes. Rares sont en effet les établissements disposant d'unités de vie familiale où les couples peuvent se retrouver. Car il s'agit aussi de privation de relations affectives, avec une compagne ou avec des enfants, en dehors des brefs échanges lors de parloirs surveillés que concluent d'humiliantes fouilles à corps, brutales retombées dans l'univers pénitentiaire. Les privations s'étendent en réalité à tous les moments, à tous les faits du quotidien, depuis la prise de douche pour laquelle l'autorisation n'est jamais gagnée, jusqu'à la consultation médicale pour laquelle la demande n'est pas toujours transmise dans les temps. Quant au sens de la peine, le détenu en est aussi privé, car en maison d'arrêt en particulier, seulement un quart auront un aménagement permettant une transition entre le dedans et le dehors, quand 3/4 auront ce qu'on appelle une sortie sèche. Il y a enfin une privation de ce dont se plaignent toujours les prisonniers, qui est celle de l'expression de la colère ou de l'indignation, dans un lieu où les frustrations et les injustices sont permanentes, car manifester de telles émotions conduit souvent devant les commissions disciplinaires. On comprend que, confrontés à toutes ces épreuves, les plus vulnérables psychologiquement soient les plus sensibles à ces privations de tous ordres. Selon une enquête de l'INSERM, 87% des détenus tirés au sort dans 20 prisons françaises présentaient des troubles mentaux, dont 13% avec des manifestations graves. Il s'agissait dans 14% de psychose, 24% de dépression sévère, dans 18% d'anxiété diffuse et dans 14% de névrose traumatique. Ces pathologies psychiatriques pour lesquelles les prises en charge sont souvent tardives et sommaires sont autant de terrains favorables à la commission d'actes impulsifs pouvant conduire à de nouvelles sanctions. La prison n'est en effet pas seulement une institution dans laquelle on accomplit sa peine, elle est aussi une institution dans laquelle des punitions peuvent être infligées lorsque des fautes, comme on les appelle, sont commises, telles une altercation avec un autre détenu ou une réponse trop vive à un surveillant. La sanction, dans plus de 2 cas sur 3 au niveau national, est le passage en cellule disciplinaire pour une ou plusieurs semaines. Lieu infâme et redouté, la cellule disciplinaire fait l'objet de peurs incontrôlées, notamment chez les détenus les plus fragiles. Or, le taux de suicide, 176 pour 10 000, y est 10 fois supérieur à ce qu'il est dans une cellule normale. Ce risque décuplé mérite d'autant plus l'attention que les circonstances qui conduisent à cette sanction concernent souvent des fautes, somme toute mineures, pour lesquelles les personnes punies estiment souvent l'être de manière injuste ou excessive, ce que les directeurs d'établissement reconnaissent volontiers, avouant toutefois se trouver dans l'impossibilité de ne pas punir. Au fil des ans, la durée maximale des séjours en cellule disciplinaire, si psychologiquement délétère, n'a cessé de diminuer, de 90 à 45, puis à 30 jours, étant même de 15 jours dans certains pays voisins. Bien que cette éventualité semble inimaginable à l'administration pénitentiaire, il n'est pas impossible que dans quelques décennies, cet héritage du cachot médiéval soit définitivement supprimé. Rétrospectivement, on le considérera peut-être comme nous considérons aujourd'hui les fers, avec étonnement et répugnance. En attendant, la possible échéance de cette utopie réaliste, des centaines de personnes détenues auront mis fin à leur jour dans le quartier disciplinaire. Après s'en être longtemps désintéressé, l'administration pénitentiaire a commencé dans les années 1990 à se préoccuper de cette question des suicides dans ces établissements. Au demeurant, il lui était difficile de ne pas le faire alors que la prévention du suicide était devenue une priorité nationale et qu'aucune catégorie de la population française ne se donnait la mort aussi souvent que les détenus. À la fin des années 2000, lorsque je commençais mon enquête, le sujet faisait l'objet d'une attention particulière. Directeurs et surveillants évoquaient devant moi le traumatisme que représentait chacune de ces tragédies. Mais je finis par comprendre que plus que le choc ressenti en voyant le cadavre ou en prenant connaissance du drame, probablement existait, c'était avant tout pour eux l'anxiété provoquée par les convocations par la police et le procureur, voire les éventuelles suites judiciaires en cas de plainte déposée par la famille. Dans ces conditions, le programme de prévention du risque suicidaire était suivi avec d'autant plus de rigueur que si en moyenne un ou deux détenus se donnaient la mort chaque année dans cette maison d'arrêt, c'était 3 ou 4 tentatives de suicide qui, chaque mois, se produisaient. Le protocole reposait sur 2 activités principales. D'abord, le dépistage du risque à l'entrée par les personnes qui recevaient les nouveaux détenus. Ensuite, pour ceux qui étaient ainsi identifiés, une surveillance de 24 heures sur 24 avec des passages à intervalles réguliers, en général toutes les 2 heures, afin de vérifier qu'ils étaient toujours en vie. La nuit, les rondes pour procéder à cette vérification, que les surveillants appelaient le « mauvais tour », consistaient à réveiller des détenus dont les plus fragiles étaient souvent insomniaques et qui protestaient de ce qu'on les réveillait au moment même où ils venaient de s'endormir. Cependant, lorsque je conclus ma recherche, le suicide était passé au second plan, derrière les évasions. La raison en était que la publicité négative faite à l'administration pénitentiaire par ses sorties spectaculaires. Les élitreuillages au-dessus de la cour de promenade n'étaient certes plus possibles à cause des filets métalliques tendus au-dessus, mais le plasticage de portes de parloir avait permis de rares cavales fortement médiatisées. Bien sûr, il y avait beaucoup moins d'évasions que de suicides, mais l'ordre des priorités avait changé, ainsi que le commentait avec philosophie le directeur de la prison. Après tout, un suicide, c'est une évasion. La perspective transatlantique s'avère sur ce sujet particulièrement éclairante. J'ai été amené à m'y intéresser dans le cadre de la commission de réforme pénale et pénitentiaire de l'État du New Jersey à laquelle je participe. Aux États-Unis, la population carcérale est passée en 30 ans de 200 000 à plus de 2 millions, alors même que la criminalité diminuait. Cette évolution est intervenue dans un contexte de désinstitutionnalisation de la maladie mentale, conduisant nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques à passer de l'enfermement asilaire à l'enfermement pénitentiaire à la suite de la commission d'un délit. Dans ce contexte, Il est remarquable, au regard de la longueur des peines et de la dureté de la vie carcérale, que comparé à la situation française, le taux de suicide soit presque 8 fois plus faible dans les prisons d'État, avec 1,6% pour 10 000 détenus, et plus de 3 fois inférieur dans les prisons locales, avec 4,7% pour 10 000 détenus. Compte tenu de l'importante population carcérale, ce sont chaque année 500 personnes qui se donnent la mort dans l'univers pénitentiaire. Mais un autre parallèle peut être établi, cette fois avec l'isolement disciplinaire. Le solitary confinement est en effet une punition habituelle dans les différents types de prisons, et comme dans les établissements français, il est statistiquement associé à des niveaux élevés de suicide, auxquels on associe les automutilations, l'association des deux étant multipliée par 8 dans ces cellules punitives comparées à des cellules ordinaires. Mais à la différence de ce qu'on observe en France et plus généralement en Europe, le recours à cette sanction s'est généralisé. On estime qu'il y a aux États-Unis 80 000 détenus en solitary confinement. Le maintien prolongé dans ces cellules étant notamment générateur de formes sévères de maladies mentales, y compris de manifestations psychotiques suite à l'isolement. Par la coupure totale avec le monde extérieur, cette mesure est interprétée par certains comme une mort sociale. Forme extrême de châtiment dans le châtiment, le solitary confinement peut en effet durer des années, voire des décennies. 3 membres des Black Panthers ont ainsi été condamnés à ce régime pendant 40 ans dans la redoutable prison de Louisiane, connue sous le nom de Angola Penitentiary. Considérons donc ce double contraste entre les deux pays pour ce qui est du suicide et de l'isolement. D'un côté, en France, un excès de morts physiques dans le pays qui a le taux de suicide le plus élevé du monde occidental. De l'autre, aux États-Unis, un excès de morts sociales dans le pays qui a la population à l'isolement la plus importante. Dans le premier cas, la durée maximale de l'isolement disciplinaire diminue sous l'influence des normes européennes. Dans le second, le taux de suicide demeure particulièrement bas. Le parallèle suggère que la souffrance psychique, soit qu'elle mène au suicide, soit qu'elle résulte de l'isolement, est partie intégrante de la condition carcérale. Il y a toutefois une évidente différence entre se donner la mort et se la faire imposer. Dans le premier cas, il s'agit d'un acte désespéré exprimant la volonté de l'auteur de répondre à une situation intolérable à laquelle il veut échapper, ou bien injuste, qu'il refuse. C'est donc au moins à minima un geste de résistance. Dans le second, il s'agit d'une coercition extrême par laquelle, parfois en usant de la force physique, l'institution soumet la personne en la privant presque complètement d'autonomie, y compris de la possibilité de se donner la mort. C'est de manière presque absolue une forme d'assujettissement. Qu'elle conduise au suicide ou qu'elle contraigne à l'isolement, la prison est ainsi une violence exercée sur le corps et le psychisme qui peut prendre une forme extrême d'anéantissement aboutissant à la mort physique ou à la mort sociale. L'isolement est du reste ce qui conduit le plus sûrement au suicide, comme on l'a vu, soulignant le lien entre l'un et l'autre. Telle est la leçon de cette histoire tragique du jeune homme africain que devraient méditer celles et ceux qui font les lois, qui rendent la justice et qui pensent les prisons. Je vous remercie. Thank you.